Dutrisac.
S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît Dutrisac.
Richard Béliveau est avec nous, il est docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal. Richard, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bon, enfin, une chronique qui donne espoir. C'est pas, au lieu de me démoraliser. Alors, si je fais de la course à pied et du tennis, je vais m'aider à survivre plus longtemps.
Oui, ben, c'est ce qu'une étude qui vient d'être publiée dans le Journal de l'Association américaine de médecine vient de faire. C'est une grande étude qui a été réalisée auprès des retraités américains, des gens, 272 500 personnes de 59 à 82 ans, et on a regardé le type d'activité physique en fonction de la réduction de la mortalité précoce, de la mortalité prématurée. Alors, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont regardé ça. Généralement, quand on regarde le rôle de l'exercice sur la réduction du risque de cancer ou des maladies cardiaques ou de la mortalité précoce, on regarde l'ensemble de l'activité physique. Mais là, cette recherche-là, du fait que c'était une grande cohorte de personnes qui a été suivie en passant pendant 12 ans, donc une étude très solide, là, montre des différences assez significatives entre le type d'activité physique qui est pratiquée chez les personnes qui sont actives.
Alors là, faut que tu m'expliques, Richard, pourquoi, par exemple, la course à pied ou le tennis ont un meilleur impact sur la santé que d'autres activités comme même le vélo.
En fait, quand on regarde les sports de raquettes, il y a des gens qui ont étudié ça de façon plus spécifique. Quand vous faites un sport de raquette, que ce soit le tennis, le squash ou le racquetball ou le badminton, vous n'avez pas que... Souvent, quand les gens pensent à l'activité physique, ils ne pensent qu'au cardiovasculaire, ils ne pensent qu'à l'oxygénation des tissus, mais c'est faux. Quand vous jouez un sport de raquette, vous sollicitez différentes régions du cerveau. Un peu comme quand vous êtes à la radio, votre cerveau travaille sur plusieurs niveaux d'attention.
Si peu, Richard, des fois, si peu.
Ben, je t'ouvrais la porte là, pour te faire un compliment, je vois que ça n'a pas fonctionné.
Non, je reste lucide.
Mais quand on fait un sport ou une activité quelconque qui nécessite plusieurs aspects du cerveau, quand vous jouez un sport de raquette, vous analysez la trajectoire de la balle. Vous avez une coordination œil-main. Vous avez une approche tactique et stratégique. Vous avez un adversaire en face de vous. Vous sollicitez votre masse musculaire, des déplacements rapides. Vous sollicitez votre équilibre, donc votre cervelet. Vous avez un aspect qui est de la socialisation puisque vous êtes avec des gens. Vous avez la gestion du stress. Il y a plusieurs aspects qui fait que votre corps va réagir biochimiquement, physiologiquement, en produisant différents types d'hormones, différents types de neurotransmetteurs, différents types de cytokines, différents types de molécules qui, relâchées dans la circulation sanguine, vont avoir un impact biochimique différent selon le type d'activité qui est exercé. Et dans cette étude-là, c'était très clair. Pour les sports de raquettes, c'était une réduction. La réduction de la mortalité prématurée est autour de 15%, que ce soit les sports de raquettes ou la course à pied. Mais lorsqu'on regarde la réduction de la mortalité cardiovasculaire pour les sports de raquettes, le tennis, par exemple, c'est à 27% de réduction. Et pour la course à pied, en ce qui concerne le cancer, c'est à 20% de réduction. Alors, ce sont des chiffres qui parlent et qui sont très importants. Je pense que quand on pense activité physique, il faut penser, peut-être la stratégie qu'on devrait avoir, ça serait de penser à l'activité la plus intense que je puisse faire en fonction de ma condition.
Ouais. Oui, c'est ça, Richard, en fonction de nos capacités aussi, là.
Exact.
Hein? Mais moi, je suis étonné que le vélo soit seulement 3% et que la marche soit 9% de protection additionnelle. Le golf, ça, c'est pas étonnant. 7%, on fait rien au golf. Mais la natation, le vélo, vraiment, ça me déçoit.
Ben, le vélo, on s'entend que c'est pas, c'était des gens entre 59 et 82 ans. Fait que c'était peut-être pas des gens qui faisaient du vélo de façon très, très intense. Ça fait du vélo très, très lent là, donc je pense que ce qu'il faut pas regarder c'est ce qui a plus ou moins fonctionné. Il faut regarder qu'est-ce qui donne des performances de protection élevées. Et l'autre point, je pense, qui est important que je mentionne, c'est que il y a une autre étude qui a montré également que les recommandations, je vous rappelle, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est qu'on devrait avoir environ 150 minutes d'activité modérée par semaine, ça veut dire de la marche, par exemple, ou 75 minutes d'activité plus soutenue, par exemple, jogging ou un sport de raquette. Alors, il y a des gens, évidemment, qui ont des horaires difficiles, pour lesquels ça peut être difficile au quotidien de faire un 30 minutes d'exercice, et ces gens-là, en anglais, on les appelle les « weekend warriors », les guerriers de la fin de semaine.
Ouais.
Qui ont juste le samedi ou le dimanche, et il y a des études qui commencent à montrer qu'en fait, même si vous n'êtes actif qu'une ou deux journées par semaine, la protection offerte par l'activité physique modérée ou intense est pratiquement équivalente à celle que vous avez si vous distribuez ces mêmes minutes-là autour de la semaine. Ça veut dire que si la protection de la réduction du risque de mortalité précoce, toutes causes confondues, là, est d'environ 30% pour les sportifs du week-end. Donc, c'est très, très semblable à ce qu'on observe pour les protections des gens qui font de l'exercice tous les jours. Je pense que c'est une bonne nouvelle.
Ouais, c'est très, sérieusement, Richard, c'est une chronique aujourd'hui en Journal de Montréal. C'est très stimulant parce que tu as l'impression que ça vaut la peine là, de faire de l'exercice, de prendre un moment pour soi, quel qu'il soit, là, de, tu sais, faire n'importe quoi, c'est mieux que rien faire pantoute.
Exact. Je pense que c'est ça qu'il faut. C'est ce dont il faut prendre conscience. D'un point de vue physiologique, le corps humain est fait pour être actif. On estime que les hommes des cavernes, je vous rappelle qu'on a été, la civilisation est apparue qu'il y a une dizaine de milliers d'années, donc on a été des nomades sans sédentarisation pendant presque 300 000 ans. Donc, notre physiologie, notre biochimie est adaptée à l'action. Elle est adaptée à la chasse, elle est adaptée à la cueillette, on était très actifs, on marchait au moins une dizaine de kilomètres par jour de façon pendant le gros de notre évolution. Tous les animaux sont très actifs physiquement et votre biochimie est adaptée à cela. Donc, quand vous bougez, ce n'est pas que le cardiovasculaire, ce n'est pas que votre cœur qui pompe plus de sang dans vos vaisseaux. C'est toute votre physiologie, vos tissus, lorsque vos muscles se contractent, lorsque vos os sont sollicités, sont mobilisés dans différentes postures, ils relarguent des molécules biochimiques en circulation, et ce sont ces molécules-là qui ont un impact à long terme sur votre santé. Il faut bouger, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour la qualité de votre sommeil aussi, c'est très clair, pour votre bien-être en général, pour votre gestion du stress. Il y a des études très, très, très bien documentées qui ont montré que l'activité physique est associée à une augmentation de la réponse immunitaire. Si vous bougez, vous allez avoir des meilleures défenses, vous allez avoir une meilleure immunité. Et ce qu'on appelle l'immunosénescence, la disparition de la capacité du système immunitaire avec l'âge, est en bonne partie contrecarrée si vous êtes très actif physiquement. Donc, il n'y a pas de contre-indication à bouger. Je pense qu'il faut, c'est un champ. On a passé dans les 50 dernières années à une industrialisation de l'alimentation et à une sédentarisation des populations. Je pense qu'il faut penser à renverser cette tendance-là et à être actif le plus que l'on peut au quotidien avec les horaires et avec les contraintes qu'on a.
C'est à lire dans le Journal de Montréal, course à pied, tennis pour vivre plus longtemps, la chronique de Richard Béliveau. Merci Richard, à la semaine
prochaine.
Bonne journée. Salut.